Les racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, préparée par Marie Dalquier, réalisée par Véronique Villa. Aujourd'hui, nous ne recevons pas, mais nous sommes accueillis par Pierre Rabhi pour parler de la sobriété heureuse. Pierre Rabhi, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous avions invité il y a quelque temps aux Racines du Ciel, à Paris, puis vous avez été malade, vous n'avez pas pu venir. Alors, vous voyez, nous tenons à vous, alors nous sommes venus à vous pour pouvoir vous rencontrer. Et c'est un plaisir de pouvoir découvrir où vous vivez, parce que finalement, cette terre a une importance très importante dans votre vie. C'est le lieu où, depuis plus de 45 ans, je crois, vous vivez dans cette ferme. C'est vrai que là, on est dans une très belle nature. Nous sommes dans les Cévennes ardéchoises. C'est un lieu sauvage, assez âpre. Et vous avez choisi de vivre là, je disais, depuis plus de 45 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
D'abord, je vous remercie. Je suis très honoré que ce soit vous qui vous déplaciez de Paris pour venir me voir. D'abord, ce qui a été, si vous voulez, à l'origine du choix, alors je précise que je suis né dans le Sahara, dans le désert, la porte du grand désert, de double culture, si vous voulez. Bon, suite au décès de ma mère, j'ai été confié à un couple de Français venant travailler dans les mines du Sud pour être éduqué. Voilà, ce qui fait que je suis ce qu'on pourrait appeler un double culture depuis déjà l'âge de 5 ans. Où je suis passé de la modernité plutôt de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme. Je suis en plus gémeaux, je ne sais pas si ça a un sens, mais enfin. Donc j'ai mené, si vous voulez, une vie qui a toujours été en quelque sorte double.
On est tous gémeaux ici.
Ah bon?
Lélie Anvar, la réalisatrice,
vous voyez. Bienvenue au club.
Donc on vous comprend.
Oui. Et donc la suite de l'histoire, c'est que quand vous êtes comme ça, un peu plongé dans une culture qui n'est pas la vôtre, et ça vous déconcerte quelque part, bien sûr, et le questionnement va même profond dans le sens où, même au plan religieux, qui a raison ? Parce que dans l'islam, on vous dit Dieu est transcendant, n'a ni été engendré, ni engendré. Ma mère chrétienne me dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, etc. Alors, il y a évidemment toutes ces contradictions. D'un côté, on vous dit surtout ne touchez pas au porc, par exemple, le porc, le cochon, il ne faut pas manger le cochon. De l'autre côté, on se régale avec du saucisson, etc. Donc, ce qui fait que vous êtes immédiatement dans des énormes schizophrènes. Voilà. Et dans ce questionnement, mais finalement, qui a raison ? Voilà. Et ce qui amène évidemment à négliger un peu les contingences du monde d'aujourd'hui pour se poser des questions fondamentales sur finalement où se trouve le vrai, où se trouve, sans pas avoir l'ambition de vouloir la vérité, mais où se trouve le vrai. Ce qui fait que dans ce questionnement, j'ai plutôt que d'être un performant dans les mathématiques ou la physique ou quoi que ce soit au plan scolaire où j'ai traîné un peu comme j'ai pu, parce que je ne croyais absolument pas à ce qu'on m'enseignait. Ça m'avait fait fréquenter beaucoup les philosophes. C'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui s'interroge, au moins se pose les questions sur l'existence. Il est en quête de vérité, si vous voulez. Ensuite, on constate que même les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, qu'il y a des divergences, qu'il y a parfois des convergences. Et puis finalement, mon grand ami, c'est Socrate, parce que Socrate déclare que je sais que je ne sais pas. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une vérité absolue qui reste toujours extrêmement vivante. Alors, au cours de ce périple, se pose la question, quel est le sens de la vie, le sens du monde, dans ces contradictions culturelles, etc., etc. Et puis finalement, comme j'étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'évolution de l'histoire, avec ses paradigmes, si vous voulez, ces diverses situations historiques, l'histoire humaine, finalement, il y a des invariants. L'être humain, depuis l'origine, il est ce qu'il est, avec sa peur, avec sa pensée, avec le questionnement sur l'au-delà, la mort, etc., d'où nous restons égaux à nous-mêmes, égaux à nous-mêmes depuis les origines, mais avec des situations historiques qui varient, qui changent. Et quand on arrive aujourd'hui à la situation du monde d'aujourd'hui, finalement, on sent que c'est dominé finalement par le paradigme d'une modernité technico-scientifique avec un homme démiurge. C'est-à-dire que vous allez voir ce que vous allez voir avec la raison, le savoir, on va faire. Et puis on instaure la civilisation la plus fragile de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la civilisation moderne reposant sur l'énergie, si vous voulez, sur l'exhumation du pétrole et des énergies, et du coup avec cette dépendance que l'on ressent aujourd'hui par rapport à cela.
Alors comme il commence à pleuvoir, on va rentrer chez vous pour suivre cette conversation, oui. Parce que je pense que le nagra de Véronique va souffrir.
Comme une ombre sûre, sol poussière,
sol et l'or et l'or. Vous nous disiez, Pierre Rabhi, que vous avez donc découvert, vous êtes passé de ce monde traditionnel que vous avez connu enfant au Maroc à cette modernité occidentale que vous avez découvert quand vous êtes venu en France dans les années 50, je crois, et ce monde démiurgique qu'on essayait de faire, où on pensait que par la technique, par le progrès, on allait réussir à créer un monde meilleur. Et puis pourtant, vous avez très vite pris de la distance avec ça, puisque je crois qu'avec votre femme, Michel, vous étiez ouvrier et vous avez décidé de quitter le monde urbain pour venir vivre en Ardèche, dans cet endroit où nous sommes aujourd'hui avec vous, où vous vivez depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix? Qu'est-ce que vous vouliez faire?
Ce que j'ai découvert, c'est que la modernité, évidemment, en partant de ce principe de l'homme démiurge, l'homme puissant, avec la technique, la science, etc., grisé par ses découvertes, etc., finalement, il m'a semblé qu'il faisait fausse route parce qu'il rompait, en quelque sorte, avec les fondements pérenne de la vie elle-même. C'est une civilisation du minéral, c'est-à-dire l'exhumation de matières minérales qu'on exalte aujourd'hui à tel point qu'aujourd'hui on en manque. D'ailleurs, on est très inquiet par rapport au manque de ce minéral, avec évidemment une réorganisation sociale qui a suscité l'urbanisation à outrance, la concentration des êtres humains dans de la matière minérale, c'est-à-dire le confinement humain dans les villes et l'éloignement, et puis un discours qui était n'exaltait plus la nature, c'est-à-dire que l'homme hors sol, sa pensée se restrécit, se restreint à des phénomènes simplement physiques dont il est grisé, physique, biologique, etc., mais avec une distance très très importante avec les fondements de la vie. Donc quand quelque chose se construit hors des fondements de la vie, on sait très bien que ça a des limites, puisque la vie, elle, est pérenne, et puis qu'elle ne nous a pas attendu. Ça fait des milliards d'années que nous sommes là. Quant à la représentation banale de dire, si on prenait 24 heures, ben on serait sur 24 heures, notre avènement serait dans les deux ou trois dernières minutes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien avant nous quelque chose de grandiose, quelque chose d'extraordinaire, à la fois la Terre, à la fois les étoiles, à la fois les autres planètes, à la fois ce phénomène extraordinaire considérable. Notre avènement advient dans ce phénomène-là. Après une histoire terrestre dont on peut faire la rétrospective, et puis on se dit, mais finalement, l'être humain, c'est quoi dans ce phénomène? Et c'est là où je rejoins un peu Teilhard de Chardin, où finalement, se poser la question sur le phénomène humain, ça veut dire que nous nous interrogeons profondément sur notre raison d'être. Et finalement, on constate que nous sommes les êtres les plus brutaux, les plus sanguinaires et les plus méchants qui soient. Et puis, en même temps, on est capable d'admirer, on est capable de s'alimenter de la beauté de la beauté de la vie.
L'humanité a produit tout ça, mais elle a aussi produit Socrate, Bouddha, Jésus, Mère Teresa. Il y a aussi des êtres humains qui ont montré d'autres voies possibles que la domination.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des consciences qui effectivement ont été des consciences éclairées, mais ces consciences éclairées, la plupart du temps, c'est qu'elles ont gardé une connexion avec la transcendance. Si elles gardent la connexion avec la transcendance, le questionnement sur la raison d'être de l'humanité nous amène bien sûr à nous dire, mais finalement, on sert à quoi? L'humanité a un rôle très très important, justement, qui est la spiritualité fondamentale, c'est d'admirer et de prendre soin. Admirer et prendre soin. Voilà la spiritualité réelle pour moi. Ensuite, c'est du blabla, on remplit les bibliothèques de théologie, etc. Et moi, quand je me mets dans la perspective christique, elle est très simple. Hein. Le Christ s'est trouvé dans des situations qu'on pourrait transposer au monde d'aujourd'hui. Il était en Palestine, enfin ce qu'on appelle Israël de l'époque. Israël était occupé par les Romains, donc était colonisé. On attendait un Christ guerrier, voilà, que c'est un Christ qui dit, ben non, c'est l'amour, aimez même vos ennemis. Et donc, du coup, il pose fondamentalement ce que devrait être aujourd'hui la posture de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire l'amour comme la puissance absolue.
Oui, bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez cité Teilhard de Chardin comme étant un de vos familiers, je dirais, oui. Sur tous les plans. Et ce que vous venez de dire, évidemment, est aussi très, très proche de ce qu'il a pu développer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi, justement, un texte de Teilhard de Chardin pour aujourd'hui. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est dans tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites et tout ce que vous êtes, c'est cette idée de ne jamais séparer les racines du ciel, à savoir précisément la terre de laquelle vous vous nourrissez dans tous les sens du terme, et cette spiritualité que vous venez d'évoquer, et de les relier très profondément. Il me semble que Teilhard de Chardin était aussi dans cette démarche, et que, à la fois en tant que scientifique, en tant que penseur et en tant que chrétien. Et donc, j'ai choisi un texte extrait de L'Esprit de la Terre, précisément. Par sens de la terre, il faut entendre le sens passionné de la destinée commune qui entraîne toujours plus loin la fraction pensante de la vie. En droit, aucun sentiment n'est plus fondé en nature, ni donc plus puissant que celui-là. Mais en fait, aucun non plus ne saurait s'éveiller plus tard, puisqu'il exige pour son explication que notre conscience, émergeant au-dessus des cercles grandissants, mais beaucoup trop restreints encore, de la famille, des patries, des races, découvre enfin que la seule unité humaine, vraiment naturelle et réelle, est l'esprit de la terre. Sous l'excitation des découvertes répétées qui, en l'espace d'un siècle, ont révélé coup sur coup à notre génération d'abord les profondeurs et la signification de la durée, puis les ressources spirituelles illimitées de la matière, et enfin les puissances des vivants associés, il semble que notre psychologie soit en train de changer. Une passion nouvelle, victorieuse, commence à se dessiner, qui balayera ou transformera ce qui a été jusqu'ici les puérilités de la terre. Et son action salutaire vient juste à point pour contrôler, réveiller ou ordonner. Les forces émancipées de l'amour, les forces dormantes de l'unité humaine, les forces hésitantes de la recherche. Peut-être un commentaire sur justement la façon dont il réunit l'amour, l'unité humaine et la recherche scientifique.
Je souscris évidemment totalement à cette perspective, c'est-à-dire qu'il nous place dans une évolution et pas dans une stagnation. Je pense qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus dans ce qu'on appelle la sociologie des consciences. Nous sommes tous enlisés dans notre histoire et prisonniers de notre histoire. Nous ne pourrons jamais construire un avenir si nous nous cramponnons, si nous restons strictement attachés à notre propre histoire. Personnellement aussi, j'ai compris que quand on m'a poussé, par exemple, à me présenter aux élections présidentielles de 2002, j'ai tenté cette expérience, non pas pour devenir président, Dieu m'en garde, mais c'est plutôt pour dire saisissons cet espace de débat pour mettre dans la politique ce que les politiques ne mettent jamais, c'est-à-dire effectivement le féminin au cœur du changement. C'est aussi une éducation qui ne se fonde pas sur la compétitivité mais sur la solidarité, qui apprend à l'enfant la solidarité, qui lui révèle la vie à travers la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. C'est aussi les utopies, incarner les utopies, parce que sinon on reste dans un modèle de société, prisonnier dans un modèle de société, et heureusement qu'il y a des gens qui transgressent.
Alors voyez. Justement, on en vient à ce que vous avez fait vous-même depuis 50 ans, c'est-à-dire incarner une utopie. Oui. C'est exactement ça. Donc dites-nous un petit peu, pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas bien votre travail depuis 50 ans, quelle était votre utopie quand vous êtes venu vous installer ici, dans cette ferme d'Ardèche?
Bien sûr, elle est fondée sur une forme de protestation. Je considérais que l'autre système, le système actuel, travesti de toutes les belles formules, liberté, égalité, fraternité, enfin, des formules inépuisables qui sont très esthétiques. Mais en fait, ça ne correspond pas à une réalité. Et ce que je voyais, c'était que dans le monde moderne, sous la rubrique de la démocratie, de la liberté, etc., c'était aussi l'asservissement de l'homme par l'homme, qu'on le veuille ou non, avec une hiérarchie d'êtres humains importants en haut de la pyramide et des êtres humains pas importants en bas de la pyramide, avec toutes ces hiérarchies à l'intérieur d'un système de travail dans lequel que j'ai connu, où finalement je me disais, mais ceux qui font le travail subalterne devraient être finalement mieux payés que les autres, parce que il pourrait y avoir une compensation par rapport à l'aliénation qu'ils subissent. Et ensuite, donc, toute cette idéologie qui manipule l'âme et la conscience humaine et qui produit du consentement. Donc à partir du moment où l'être humain a été manipulé pour être consentant, eh ben il est prisonnier, il est figé. On vous dit par exemple que la modernité va libérer l'être humain. Et puis moi, dans mon microcosme de travail, je voyais qu'on était incarcéré. Et ensuite, en réfléchissant finalement à l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que je constate? Ben, que de la maternelle à l'université, il est enfermé. Donc c'est le bahut, ensuite on a des casernes pour apprendre à tuer, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes, même pour aller s'amuser on va en boîte, on y va dans sa caisse, et on a la boîte à vieux, puis la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors comme itinéraire de vie, je vois vraiment pas en quoi nous sommes libérés. Et en plus, cette aliénation donne à l'argent la toute puissance. Vous en avez, vous vivez, vous n'en avez pas, vous ne vivez pas. Donc ça veut dire que vous avez finalement choisi une forme d'aliénation qui enjolive en quelque sorte une situation qui est tragique. Alors, on manque pas de formule pour mettre de la belle peinture sur des réalités qui n'en sont pas. Et si aujourd'hui, dans des pays même riches, il y a de la misère, et la pire des misères, c'est-à-dire celle qui aboutit à faire de l'être humain, à donner le sentiment à l'être humain qu'il n'a aucune importance. Peu importe l'être humain, pourvu que le produit national brut augmente. On est en train de constater que plus on augmente le produit national brut, plus on augmente l'indigence. Un chef d'entreprise va évacuer des gens pour augmenter son bénéfice, mais il va faire de l'anti-humain pour pouvoir augmenter le bénéfice. Et ensuite, ça exacerbe évidemment cet instinct prédateur. C'est à cause des produits nationaux bruts qu'on détruit les forêts, qu'on épuise les ressources de la mer, qu'on relègue des humains, qu'on fabrique de la famine. C'est fabriqué littéralement. C'est des stratégies qui créent la faim dans le monde, etc. Et on invoque toujours ce mythe de la croissance économique comme étant la solution, alors que c'est le gros problème. Et c'est pour ça que j'ai fait l'honneur de prendre la sobriété heureuse. Ben, la sobriété heureuse, c'est pas pour dire serrons-nous la ceinture, pas du tout. C'est pour revenir à la juste mesure des choses qui fasse que nous puissions à la fois avoir ce qui nous est nécessaire pour notre vie, c'est normal, ben, c'est simple, c'est nourrir, être vêtu, avoir un toit sur sa tête, soigner quand on en a besoin. Et puis le reste, ben, il faut le laisser à la jubilation, à la joie, à libérer le temps pour autre chose. Et tout cela donc est complètement évacué, et on se plaint des multinationales, des choses comme ça, mais les multinationales, elles auraient du souci à se faire si nous devenions tous sobres.
La elle est là, où est Hossa, la l'éloba, l'olousso. La elle est là, où est Hossa, un sang cessé joué. Sans la leçon de son homme, si le sang le l'amène. Sans la leçon de son homme, il l'autre joue le faux. Où est la lyre, elle est là.
Notre retour à la terre, si vous voulez, quand nous avons décidé de faire ce retour à la terre, nous ne connaissions rien à l'agriculture. Je voulais faire de l'agriculture, donc j'étais obligé de faire quelques études d'agronomie pour avoir un petit BA, le plus petit diplôme parce que je devais passer par le Crédit Agricole, qui me dit, mais oui, mais allez prendre votre métier. Et ensuite, je suis devenu ouvrier agricole pour apprendre. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je découvre, évidemment, l'exaction que commet l'agriculture contre la nature, c'est-à-dire le recours massif à des produits chimiques, etc., etc. Et donc nous avions, notre dossier était recevable par le Crédit Agricole pour pouvoir emprunter, seulement quand on fait la description de notre lieu, pas d'électricité, on a vécu 13 ans sans électricité, 8 ans avec très peu d'eau, des sols arides, un chemin à peine praticable, pas de téléphone, etc. Et qu'on a fait la description du lieu où nous voulions vivre, le Crédit Agricole nous a dit... On ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà, c'était ça, l'argument. Seulement, le problème, c'était comment dire, comment avancer comme argument important le fait que le lieu est beau, le fait qu'il y a du silence, le fait qu'il y a une espèce de félicité intérieure. Nous nous sommes tombés amoureux, littéralement, de ce lieu. En disant, d'accord, il ne nous offre pas matériellement ce qu'il offre à d'autres, mais il nous offre une nourriture intérieure tellement puissante, tellement importante, que cette nourriture intérieure va nous donner le courage de notre survie. Et notre survie, nous n'allons pas la placer sur la matière, on la place sur la force de l'esprit, la force de ce qui nous nourrit intérieurement. Donc, ce n'était pas un défi, mais dès le départ, l'histoire de l'auto-limitation, non pas comme se serrer la ceinture, ce n'est pas ça du tout. C'est véritablement une option. Je veux garder l'équilibre par la sobriété, parce que le lieu m'offrant la joie, eh bien, cette joie, aucun milliardaire ne peut se l'acheter. On peut tout acheter, des yachts, des avions privés, toutes ces fariboles enfin, dont on se surcharge et dont on s'encombre pour finalement ne plus être. Et avoir, sans être, ben, ce n'est pas vivre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la sobriété et la modération en tant que principe puissant, c'est très puissant la modération. Et c'est une puissance extraordinaire parce que vous vous dites finalement, et à ce moment-là, les facteurs de satisfaction, parce que le monde actuel vous dit à travers excite en permanence les gens à n'être jamais satisfaits. Ah, vous avez ça, mais il faut ça. Mais malheureux, vous n'avez que ça. Ben, il faut y aller, etc. Et puis toutes les simagrées de la publicité qui sont une honte. Parce que moi, je me sens humilié, moi, quand j'ai pas besoin de voir une femme nue pour acheter une voiture. Je veux dire ça. On peut parfaitement me dire une voiture, c'est comme ça. Et c'est pas respect profond pour la femme, justement. Et on manipule tout le monde de façon à ce qu'on soit dans cette boulimie permanente, et cette boulimie permanente qui ne pourra jamais créer de la satisfaction.
Est-ce que vous connaissez cette phrase de saint Augustin qui dit « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà ».
Non, je ne connais pas cette phrase.
C'est tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'au fond, l'homme doit apprendre à se satisfaire de peu de choses, oui. Et d'aller plutôt dans savourer ce qu'on a déjà, vivre la qualité de ce qui nous est donné plutôt que de toujours désirer autre chose. C'est sortir du toujours plus, de cette loi du désir mimétique qui fait qu'on désire aussi ce que les autres ont. Donc on regarde partout ailleurs et on veut plus. Alors ce que vous nous expliquez là, je trouve, va tout à fait dans ce sens-là, cette sagesse augustinienne, de dire au fond, avec peu de choses, on peut être très heureux, mais il faut savoir les vivre, les regarder. Et c'est ce que vous faites ici, on est dans un lieu qui est magnifique, effectivement. Et ce que vous nous disiez, c'est que votre bonheur, votre joie tient au plaisir esthétique, aussi du paysage, et au temps que vous vous êtes donné, j'imagine, pour regarder, contempler, lire, travailler dans un cadre où vous vous sentez bien.
Oui, c'est à mon avis la vocation fondamentale de l'être humain, c'est justement de par le fait qu'il a une âme, une conscience, qu'il a quelque chose qui est de l'ordre de son intériorité et a besoin de nourrir cette intériorité. Or, aujourd'hui, par la célébration de la matière et la célébration permanente de la matière, fait qu'on a l'avoir ne peut pas nourrir l'être. C'est-à-dire que le temps que nous passons à avoir, c'est un temps qui est réduit par rapport à l'être. Et c'est là que j'entends la vraie aliénation. Et c'est là que j'entends la vraie option spirituelle, c'est de dire, bien sûr, on a besoin de se nourrir, on a besoin, etc. D'ailleurs, moi, j'ai choisi l'agroécologie, puisque je suis un promoteur depuis des années de l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie ? Parce qu'elle permet à la fois de se nourrir, elle permet de respecter la vie, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire, produire et détruire, comme on le fait aujourd'hui, les sols pollués, toutes les substances toxiques qu'on répand partout, c'est de rendre hommage à la vie, justement en disant, j'ai besoin de manger, bien sûr, j'ai besoin de nourrir ma famille, j'ai besoin de me nourrir mes semblables, mais à la fois, je le fais en respectant et en prenant soin de ce magnifique don que nous fait le divin pour que nous puissions répondre à nos besoins, mais pas détruire ce qui nous a été donné. Voyez, donc c'est pour ça que je pense ma mission, enfin si j'en ai une, je ne m'attribue pas de mission particulière, je fais ce que je juge devoir faire si je veux justement rester dans cette dimension spirituelle du respect de la vie, et bien c'est propager en quelque sorte des méthodes très concrètes, parce qu'on n'est pas seulement dans le discours général ou les concepts généraux, très concrètement d'apprendre aux gens à être des gens respectueux de la vie.
Oui, alors justement, ici, on est entouré de beauté, et c'est vrai qu'on est saisi, on comprend que vous soyez nourri spirituellement et aussi physiquement par cette nature qui vous entoure. Mais que dites-vous de ceux qui vivent dans les villes ? Comment appliquer la sobriété heureuse ailleurs que dans ce paradis, finalement, où vous êtes ? Parce qu'après tout, la majeure partie de la population terrestre, aujourd'hui, ne vit pas. N'a pas les moyens, même physiques, matériels, d'être entouré de cette nature, d'être en contact avec la nature. Comment appliquer la sobriété heureuse à la vie moderne, urbaine ?
C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le paradigme qui a été choisi, donnant à l'argent le plein pouvoir sur la vie elle-même, a piégé tout le monde. Les gens sont dans les villes, ils sont piégés. Et aujourd'hui, le piège est en train de se refermer parce qu'en ville, on n'assurera pas du plein emploi à tout le monde. J'ai l'impression vraiment que le piège est en train de se refermer. Pourquoi ? Parce que le choix idéologique dominant, reposant justement sur cette croissance économique, sur cette technologie, etc., avec une urbanisation folle et des espaces ruraux désertifiés. Nous, quand nous sommes arrivés ici, avec 4 à 5 fermes en activité, il n'y a plus rien. Donc le paradigme choisi a donné la prépondérance à la civilisation urbaine. Et aujourd'hui, on est piégé. C'est-à-dire qu'en ville, s'il n'y a pas de terre, il faudra quand même se nourrir. Alors comment allons-nous nourrir les populations ? Donc si vous voulez, ce qu'il faut remettre en question, c'est la logique elle-même. Ce que je n'entends pas dans le discours politique. Discours politique, vous allez voir ce que vous allez voir, on fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle dont on sait qu'il est mort. Il est mort, ce modèle. Il est mort. Donc il n'a aucun avenir, il n'a aucune perspective d'avenir. Plein emploi, il faut faire un trait dessus, etc. Donc c'est là où la réflexion et la raison devraient nous amener à dire, bon, ce modèle-là s'achève, mettons en route autre chose. Et cette autre chose, l'expérience nous apprend qu'il ne peut pas reposer sur du toujours plus, sur une planète qui est elle-même limitée. S'il y avait plusieurs planètes, on dirait, une fois qu'on a épuisé celle-là, on ira... Mais nous n'avons que celle-là. Et alors, tout cela devrait éclairer le politique. Mais ça ne l'éclaire pas du tout. Il continue à croire, à nous faire croire. Je ne suis pas dans la critique des individus. Hein. Je ne suis pas une gauche-droite. Enfin, je trouve ça un peu dépassé. C'est la politique qui n'est pas en phase avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, de ce fait, les conséquences du choix vont évidemment exploser. On voit cette explosion, l'angoisse qui augmente. Un modèle qui faisait tant de promesses et qui aujourd'hui se désiste, finalement se retire et ne peut plus rien assurer, il est normal, je serai en ville, j'aurai de l'angoisse aussi. Ou même, je peux avoir de l'angoisse par solidarité pour l'humanité. C'est pas, je me situe pas dans quelqu'un qui est planqué, et qui est dans son petit paradis, et qui se fout, pas du tout. Je suis en communion avec tous ceux qui vivent une situation difficile. Mais cette situation difficile ne peut être résolue que si nous avons une vision différente où justement le sacré doit avoir sa place. Et quand il y aura le sacré, on respectera, on sera modéré, on sera dans la gratitude, on n'est dans rien de tout ça.
D'ailleurs, il n'y a rien d'inéluctable. Vous n'êtes pas le seul. Vous avez été un des pionniers à revenir à la Terre. Et puis, de plus en plus de gens l'ont fait après vous. Et moi, je vois dans ma propre famille, ma petite sœur a décidé, il y a une dizaine d'années, de quitter Paris et d'aller vivre dans la Drôme. Elle a fait un BTS d'agriculture. Elle fait des plantes médicinales. Donc, il y a beaucoup de gens qui, finalement, font comme vous. C'est-à-dire, décident de quitter le système, décident de quitter la vie urbaine pour aller vivre à la campagne. Ce retour à la Terre, c'est quelque chose qu'on voit déjà, Lélie, chez Jean Giono, par exemple, qui avait déjà ce sens très fort de la nécessité pour beaucoup d'hommes de revenir à la Terre pour redécouvrir ce que sont les lois de la vie, ce que sont que les vraies valeurs.
Oui, il est certain que quand nous avons décidé de venir vous rendre visite ici, évidemment, Jean Giono s'est imposé à nous comme une référence, évidemment, ce grand écrivain de la Terre. Alors, évidemment, il parle de la Provence, mais ce n'est pas si loin que cela. Et le texte que j'ai choisi est extrait d'un texte qui s'appelle « Que ma joie demeure ». Et là aussi, je pense que c'est très en harmonie avec votre pensée. Et c'est une scène qui se passe dans la nuit et c'est quelqu'un justement qui va entrer en communion avec la terre et avec une espérance qui, je crois, n'est peut-être pas très loin de cette espérance que vous entretenez. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé. Et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ce n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Il se leva. Le parquet était froid, le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait presque comme en plein jour le plateau et la forêt grémonne. Les étoiles s'éparpillaient partout. Il ouvrit le grand ventail. Il donnait directement sur le large du champ. Quand on avait vu la lumière de la nuit comme ça, sans vitre entre elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal avec son pétrole était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné. Pas de lune, oh, pas de lune, mais on était comme dessous des braises malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre, c'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il était temps de se servir de son Brabant neuf. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. Si jamais je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité. Non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire, tout parlait doucement au sens. La forêt, là-bas, était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. J'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer, se dit Jourdan. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui, il ne savait pas d'où. Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font, et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après, elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. Et puis c'est bien vrai, la nuit était extraordinaire. Tout pouvait arriver par une nuit pareille. Nous aurions beau temps que l'homme vienne.
Oui, c'est incontestablement un beau texte. Seulement, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à des réalités qui ne sont pas seulement solutionnables par des grandes envolées poétiques. C'est-à-dire que nous avons affaire à des réalités extrêmement concrètes, extrêmement aiguës. Et que c'est très bien que Giono, comme d'autres poètes, d'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, apprend même chez les Grecs anciens, l'exaltation, la beauté de la nature, la beauté de la vie, on la trouve partout. Seulement aujourd'hui, on est confronté à des réalités extrêmement concrètes, extrêmement aiguës, d'une société sur laquelle il faut travailler pour orienter les choses autrement, etc. Donc c'est un peu dans cette phase-là que nous nous sommes trouvés. Il en va d'ailleurs de ça, j'ai beaucoup lu Giono, hein, bien sûr, et je le respecte, il n'y a aucun problème, mais le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que les concepts, les idées, les bibliothèques croulent sous les concepts, mais la réalité, elle, change très peu. Alors bien sûr, il y a cet ensemencement des consciences qu'il faut faire, c'est ce que je fais constamment, on ensemence des consciences. Mais une fois qu'on a ensemencé les consciences, encore faut-il dire ce que je dis, je peux le faire. Il est faisable, vous pouvez le faire, concrètement. C'est ce que j'appelle, moi, l'incarnation des utopies. C'est comment finalement mener à la fois cet ensemencement des consciences, mais à la fois l'incarnation de ce qui a été proposé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus... Tout le monde y va de son concept sur le monde comme il devrait être, sur ceci et sur cela, mais le fait dans la réalité, et il y a des gens qui sont exclus, il y a des gens, la misère augmente. Aujourd'hui, au Sahel, il y a une famine épouvantable. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les zones sahéliennes. Aujourd'hui, des enfants naissent pour mourir de faim. Donc, s'ils mouraient de maladie, on pourrait dire de faim, et cette faim qui est en fait le fait de l'humanité. Parce qu'il est anormal qu'une planète riche de tout, je dis souvent aux gens, prenez un seul grain de blé, mettez-le sur votre paume et méditez dessus. Voilà l'esprit. Dans ce grain, il y a de quoi nourrir l'humanité tout entière. Donc la puissance de la vie est absolument gigantesque. Parce que si vous connaissez un peu l'agriculture, un grain de blé, vous le semez, il vous donne... Le plus mauvais paysan comme moi pourrait obtenir au moins 5-6 épis, chaque épi contenant 40 graines. Si je ressème ces 10 épis, 40 graines, multiplié par 5, ça fait un certain nombre, comme dit. Et puis, donc la nature est prodigue, elle est extraordinairement prodigue. Même quelquefois, on se pose la question sur... Le gaspillage, finalement. Pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs spermatozoïdes pour qu'un seul soit au père? Pourquoi, etc. On se dit, mais quel gaspillage? Mais non, il n'y a pas de gaspillage. C'est-à-dire que tout ce qui est en excédent est remis dans la vie. Et la vie fait quoi? De l'économie. C'est ça, la vraie économie. Et nous, ce que nous appelons économie, ça n'a rien à voir avec l'économie. Nous faisons de la dissipation, du gaspillage et de la destruction. Et on met de l'étiquette économie. Donc voilà, il y a toute une réflexion à faire sur les constats sont faits, les diagnostics sont faits, qu'ils partent par un beau texte comme celui de Giono ou par des constats qui sont plus pragmatiques. Les constats sont faits, mais on fait quoi ?
Alors on fait quoi ?
Vous proposez à travers... tout un certain nombre d'associations que vous avez créées, oui. Des solutions concrètes. Donc justement, comme vous le dites, vous faites partie de ces gens, et c'est ça qui nous donnait envie de vous rencontrer, notamment chez vous, c'est que vous faites partie de ces gens qui mettaient en œuvre vos idées depuis longtemps. Ce serait peut-être l'occasion de nous donner quelques exemples concrets de choses que vous faites. On est passé tout à l'heure devant un village qui s'appelle le village du Buy. On voit qu'il se passe quelque chose là. On voit qu'il se passe quelque chose. Racontez-nous des exemples concrets de choses que vous faites pour essayer de changer un peu les mentalités, de vivre autrement.
Alors, d'abord, la première proposition ou incarnation, ça a été notre propre ferme. Nous avons quitté Paris, on n'avait pas le moindre sou, on a acheté un lieu que j'ai décrit précédemment. Sur ce lieu, on a installé une activité dite économique. Cette activité économique consistait à avoir des chèvres, faire du fromage et à améliorer. Et puis en même temps, dans la réhabilitation et l'amélioration du sol et de l'environnement, de façon à donner vitalité. 5 enfants sont venus, n'ont manqué de rien. Sur un lieu qui était considéré comme non viable. Donc ça a été la première expérience. Ensuite, ça a été de dire, mais finalement, il y a la faim dans le monde. Il y a des problèmes dans le monde. Et la première fois, j'ai été sollicité par une association qui s'appelait le CRIAD, centre de relations internationales entre paysans pour le développement, et je me suis trouvé en 1981 au Burkina Faso, pour la première fois, pour examiner la situation du lieu. On m'avait invité à cela, et je constate quoi ? Que la misère s'installe, que la sécheresse avait détruit les sols, et que les paysans étaient dans la détresse la plus totale. Donc, il s'est trouvé que l'approche agronomique qu'on avait expérimentée, sans engrais, sans pesticides, etc., convenait parfaitement à ces paysans. Donc ça a été l'enseignement de l'agroécologie des paysans. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, ça ne vous coûte rien. Vous prenez des déchets, vous les transformez, vous les compostez, ça vous fait le meilleur engrais que vous puissiez obtenir. Résultat, ça marche. Pendant ce temps-là, moi j'ai écrit un bouquin sur l'expérience africaine. Bouquin qui s'appelle L'offrande au crépuscule, avec un immense hommage aux femmes, parce que j'ai constaté quand même que sans les femmes, tout serait par terre. Voilà. Et j'ai constaté cette vitalité des femmes qui sont dans les coulisses, qui sont jamais dans les trucs politiques, jamais, mais elles sont dans les coulisses. Et leur dévouement, leur amour, leur opiniâtreté, etc., c'est-à-dire les gardiennes de la vie, elles étaient là. Et donc ce bouquin où j'explique l'approche sociale, l'approche technique, l'approche scientifique de l'agroécologie est envoyé au ministère de l'Agriculture qui lui donne un prix. J'étais le premier prix. Je suis le premier surpris parce que je me suis dit jamais ils n'accepteront une thèse comme celle-là. Et ensuite, prolifération d'autres structures, création de Terre Humanisme qui aujourd'hui enseigne au plan international l'agroécologie. Vous avez ma fille qui a pris un concept que j'avais proposé qui s'appelle les oasis en tout lieu. Eh ben, vous pouvez passer au hameau des Buis, c'est pas loin d'ici. Il y a une vingtaine d'habitats, il y a une école primaire, il y a un collège, etc. Ça a été le concept oasis en tout lieu. Dire que dans la désertification actuelle de la société, qu'est-ce qu'on va faire ? Le jour où les gens n'auront plus de travail, ils font quoi ? Voilà. Donc recréons des lieux qui resocialisent un peu, qui recréent le lien social, la solidarité entre les gens, etc. Mais pas des lieux refuges, c'est-à-dire fermés, des lieux au contraire ouverts. Donc voilà, toutes ces...
Et Colibri.
Et récemment, Colibri. Les Colibris, c'était destiné justement à recréer le lien et la cohésion entre toutes ces organisations et de porter cette vision que nous avons, nous, d'une nécessité, pas seulement d'avoir des alternatives compensatoires ou des alternatives qui vont corriger simplement momentanément les choses, mais nous sommes pour trois critères absolument indispensables. Premièrement, changement de paradigme. Sortir de ce paradigme de l'argent, de mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations plutôt que le profit et tout ce qui en découle. Ça, c'est le premier élément. Parce que sinon, ce paradigme-là produit de la détresse et on s'acharne sur des symptômes produits par un système lequel n'est pas remis en question, même politiquement, et qui devrait l'être. Deuxièmement, croire que la société peut changer sans changement de l'humain, je n'y crois pas. Je ne veux pas me faire ce type d'illusion. Je dis souvent aux gens, vous pouvez manger, boire, recycler votre eau et exploiter votre prochain. Ce n'est pas incompatible. Et de même, bon, on peut s'indigner, mais retourner et ficher une rouste à sa femme. Je veux dire, chez les opprimés, il y a aussi des oppresseurs en puissance. Donc le changement de l'humain est absolument indispensable. Et qui dit changement de l'humain, évidemment, ça m'interpelle personnellement. Parce que je restais constamment dans le bouc émissaire, ça ne va pas parce que les autres, non. Et aussi la réhabilitation, moi je le dis ouvertement, j'ai évité d'en parler pendant des années, parce que dès que vous parlez spiritualité, c'est qu'on fait partie d'une secte ou je ne sais pas quoi, ce qui est complètement ridicule. Moi je pense que la réhabilitation du sacré est indispensable, parce que par cette réhabilitation, ça nous donne une dimension transcendante. Et ça nous donne une perception de cette réalité vivante qui prend toute sa noblesse et toute sa grandeur. Et ça donne à l'être humain cette grandeur, il rejoint véritablement son rôle d'être humain, de s'émerveiller, de s'émerveiller, donc de nourrir son cœur, son esprit, de quelque chose qui va lui donner une sorte de jubilation intérieure, même si elle est tranquille, si vous voulez. Et en même temps, il ne m'apparaît pas incompatible d'avoir un rapport et une conception sacrée de la vie et en même temps de la saccager. C'est une incompatibilité. C'est parce que nous avons abandonné cette vision sacrée que finalement, on a validé, entériné, qu'on a été, et même les religions n'ont pas été à la hauteur pour dire, pour justement limiter en quelque sorte ces dérives. Voilà, et l'esthétique, la beauté, bien sûr. Tout cela est beauté, vous voyez, tout cela est beauté dans un monde où finalement la laideur n'arrête pas de croître et où les âmes sont finalement polluées. Je ne rentre pas dans un moralisme strict, etc. Mais voilà, la situation n'est quand même pas très brillante.
Ah, justement, vous venez de dire que la situation n'est pas très brillante et je voulais vous demander, après 50 ans maintenant de cette vie que vous avez menée ici et de toutes ces actions que vous avez faites, est-ce que vous avez encore espoir ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cette utopie, elle est quand même à l'horizon ? Vous pensez que l'homme changera ? Parce que ça semble tellement impossible, tellement difficile, tellement incroyable, que je voulais savoir où vous en êtes de votre espérance, en fait, pour l'humanité.
Vous savez, il y a un moment où vous tombez dans une espèce de réalisme, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous vous dites, moi, je fais le possible et Dieu fera l'impossible, parce que c'est tellement hors de la mesure d'un être humain. Alors, on a la tentation de dire, le bateau coule, j'y peux rien. De toute façon, je ne l'empêcherai pas de couler. Il y a cette tentation quand j'ai mon foie n'est mal régulé, un beau matin comme ça, ou je ne sais pas quoi, ou on a une vision un peu noire, pessimiste des choses. Et puis le lendemain, le soleil brille, on est en pleine jubilation, etc. Ça c'est l'être humain dans ses limites. Et on mesure ses limites. Après se pose la question, mais c'est hors de proportion de ce que je peux, moi, faire. Et ensuite, est-ce que l'humanité va s'en sortir ou va pas s'en sortir ? Moi, je n'ai pas de réponse, véritablement. Ça tient à sa vision, si elle devient intelligente. J'entends par intelligence, c'est pas sortir premier des grandes écoles, là, ça n'a rien à voir. J'entends par l'intelligence, c'est-à-dire cette lumière qui nous vient, qui nous éclaire et auquel on s'ouvre. C'est pas une question de cerveau. Le cerveau n'est que le réceptacle de quelque chose qui transcende, et c'est ça ce que j'appelle le spirituel. Et quand je vois l'organisation de la vie, l'intelligence qui est dans l'ordre de la vie, cette intelligence absolument époustouflante, et il suffit d'ouvrir son cœur et son esprit à cette intelligence, et on est intelligent, parce qu'on est éclairé. Vous comprenez ? Autrement, on reste dans notre rationalité stupide qui, soi-disant, est une rationalité qui va éradiquer la superstition. Mais il n'y a pas de pire superstition que la rationalité quand elle est aveugle. Il n'y a pas pire parce qu'on est installé dans une certitude absolue. Alors, par rapport au devenir du monde, on se pose des questions, on se gratte un peu la tête. Je dis, je ne sais pas quel sera l'avenir. Je suis ni pessimiste ni optimiste, mais moi, je fais ma part. C'est la raison pour laquelle on avait créé le colibri. Colibri, vous connaissez la légende, le feu, il y a un incendie, les animaux sont atterrés, par contre, le petit colibri, lui, il va prendre une goutte d'eau et la jeter sur le feu, ça paraît complètement dérisoire. Le tatou le regarde, lui dit, mais c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Il dit, je le sais, mais je fais ma part. Donc, faire sa part, ça veut dire qu'à partir du moment où on a un éclairage de cette intelligence et qu'on a on a cette conscience constructive, et bien ensuite, ce qui nous tient, moi en tout cas ce qui me tient, je ne me pose plus de questions sur le futur. C'est-à-dire soit l'humanité continue à transgresser et elle s'éradiquera elle-même, soit elle est éclairée par la vraie intelligence. Et c'est là où la spiritualité est très importante pour l'éclairage. Et pas cette spiritualité partisane qu'on travaille sur les virgules, les machins. C'est du fatras, tout ça. Il faut maintenant simplement, c'est direct. Moi, pour moi, le Christ a dit, aimer, la puissance de l'amour, c'est suffit largement. Et c'est la puissance la plus importante. Ensuite, vous vous dites, moi, je suis témoin. Je suis doté de cette vie. Je suis plein de gratitude pour cette vie. Qu'est-ce que je peux en faire ? Je vais construire. et je vais, en construisant, j'y trouve mon compte, parce que je trouve ma cohérence. Et ça, ma cohérence, bien sûr, on pourrait faire une bibliothèque entière sur mes incohérences et tout ce qui est incohérent, mais il y a un point fondamental sur lequel je ne veux pas être incohérent. Moi, je dois rester cohérent. Et c'est cette cohérence-là qui fait que on continue en dépit de tout ce qui, de tous les signaux et de tous les signes et de l'état du monde qui n'est qu'un, dès qu'on ouvre la radio, ça y est, c'est le désastre généralisé. C'est dommage que dans la radio, il n'y ait pas quand même quelques bonnes nouvelles.
Ben, vous voyez, la radio, c'est aussi les racines du ciel. Et les racines du ciel, ce sont des bonnes nouvelles de rencontrer des gens comme vous, qui êtes les témoins de ce que vous dites, de ce que vous annoncez. Hein. Vous incarnez vraiment dans votre vie. C'est pour ça qu'on était très heureux d'être venus vous voir ici. Et j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit sur la spiritualité. Ça, je crois profondément aujourd'hui, il faut sortir d'une vision de la spiritualité comme une religion où on va pratiquer des choses extérieures, des actes, des rituels dont on ne comprend pas toujours le sens. La spiritualité, c'est se transformer soi-même au jour le jour. C'est avoir un respect de la vie, un respect de l'autre, être dans le lien, dans la communion, et dans la joie. Donc voilà, vous nous avez donné aujourd'hui une leçon de spiritualité. Je vous en remercie beaucoup, ainsi que Lélian Var, de nous avoir accueillis dans ce bel endroit.
Merci infiniment.
Cette émission touche à sa fin. Bref agenda culturel, Lélian Var.
Je voudrais citer le dernier ouvrage paru de Pierre Rabhi chez Actes Sud, Vers la sobriété heureuse. Pierre Rabhi a publié de nombreux ouvrages dont on trouvera les références sur notre site. Mais je cite celui-là parce qu'évidemment, il développe ce que Pierre Rabhi nous a dit au cours de cette émission. Et puis aussi, et surtout, parce qu'à la fin de ce livre, qui est presque un livre testament, il y a la Charte internationale pour la Terre et l'humanisme, donc le texte de cette charte, mais aussi tout un chapitre sur les différentes structures qui ont été inspirées ou directement fondées par Pierre Rabhi, les associations, les fondations, enfin toutes les activités nombreuses et variées qui se fondent sur la pensée de Pierre Rabhi pour faire avancer les choses tout à fait concrètement. Donc il y a les sites internet des associations.
Voilà, tous les renseignements pratiques.
Absolument.
Si on veut s'investir dans une de ces associations.
Absolument, et pour aider et pour effectivement contribuer à cette construction qui finalement est une construction universelle. Et donc il y a cet ouvrage, Vers la sobriété heureuse, chez Actes Sud. Et la deuxième chose que je voudrais signaler, c'est votre dernier ouvrage, Frédéric, qui s'intitule L'âme du monde et qui va dans le sens de tout ce que l'on vient de dire. C'est publié chez Nil et c'est en fait, je qualifierais cela d'un conte spirituel dans lequel sept sages se retrouvent dans un monastère du Tibet, venus des quatre coins du monde, inspirés par une voix qui les a amenés jusque-là. Et ils vont transmettre un enseignement de sagesse à un jeune moine et à une jeune hollandaise aussi qui se retrouve là, donc Tenzin et Natina. Et chacun va présenter ce que sa tradition, sa culture a apporté, la pierre qu'il a apportée à l'édification d'une sagesse universelle. Et c'est un livre qui, sous la forme d'un conte, permet de rendre tout à fait accessible justement la quintessence des sagesses du monde qui se retrouve au Tibet, mais qui se retrouve surtout dans le cœur de chaque humain.
Merci Didi. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Jean-Claude Carrière qui nous parlera des différentes religions qu'il a visitées en tant qu'athée convaincu et néanmoins tolérant. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h.